France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les dirigeants des 27 au secours de l'Union européenne aujourd'hui à Bratislava, ils tentent de redessiner les contours de l'Europe post-Brexit. Dans ce sommet sans le Royaume-Uni, ce sont la sécurité et la défense européenne qui devraient dominer les débats. Alep attend toujours l'aide humanitaire pour ses 2250 000 habitants, mais les camions chargés de nourriture sont pour l'instant bloqués aux abords de la frontière entre la Syrie et la Turquie malgré la trêve prévue jusqu'à ce soir. Dans l'actualité française, les réactions se multiplient en Corse après les condamnations dans l'affaire Sisko. Et puis invité de ce journal, le spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg, il est l'auteur d'un essai paru aux éditions Les Échappées, Lettres aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. Midi 55, seconde partie de la Grande Table, avec vous Olivia Gesbert.
Avec un seul hashtag tout au long de la journée, France idée avec un S. Dans le cadre de notre journée spéciale, la France est-elle toujours la patrie des intellectuels? La Grande Table s'interroge sur la place des intellectuels dans l'espace médiatique avec l'historien des médias Christian Delporte et la sociologue Gisèle Sapiro, à partir, vous le disiez, de midi 55.
À tout à l'heure, Olivia. Dessiner les contours de l'Europe post-Brexit, vaste programme pour les 27 réunis aujourd'hui à Bratislava. Et dans ce sommet sans le Royaume-Uni, ce sont la sécurité et la défense européenne qui devraient dominer les débats. Les dirigeants des 27 pays sont arrivés et déjà certains se sont exprimés, comme François Hollande, le chef de l'État. Il s'est exprimé donc sur la défense européenne.
La défense européenne, c'est pour l'Europe le défi. Est-ce que nous voulons peser dans le destin du monde? Est-ce que nous sommes capables de nous protéger, et notamment contre le terrorisme? Est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos capacités militaires soient plus fortes et que nous puissions nous projeter? Il n'y a pas de continent, il n'y a pas d'union s'il n'y a pas de défense de ce que nous représentons en termes de valeurs et d'intérêts. La France fait l'effort principal pour la défense européenne, mais elle ne peut pas être seule. Elle ne veut pas être seule. Elle peut être la première, mais elle veut que l'Europe, avec la France, l'Europe et la France dans l'Europe, puissent assurer sa propre défense dans le cadre des alliances que l'on sait, c'est-à-dire de l'Alliance Atlantique avec notre partenaire américain. Et que chacun sache bien que si les États-Unis font un choix de s'éloigner, l'Europe doit être capable de se défendre par elle-même.
Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Bratislava. L'Union européenne est dans un état critique depuis le Brexit. Et les 27 espèrent bien donner aujourd'hui une impulsion nouvelle au projet européen.
Et le maître mot du jour, c'est la sécurité dans tous les domaines. Dans l'analyse, en effet, qu'ils font de l'évaluation calamiteuse de l'Union européenne par les citoyens de celle-ci, les chefs d'État et de gouvernement veulent s'employer à rassurer qu'il s'agisse de l'emploi ou de la lutte antiterroriste. Et cette fois-ci, il semble que la réflexion soit bien lancée sur la création d'une entité élargie de sécurité collective que l'on n'évitera évidemment pas d'intituler armée européenne. Dans un premier temps, en tout cas, il s'agira de voir où l'on peut non seulement réduire les doublons, y compris dans les industries militaires où elles sont légion, mais aussi bâtir un ensemble permanent, crédible et opérationnel. Chacun reconnaît ici, et c'est nouveau, que le poids que l'on pèse dans le monde dépend aussi en partie de l'arsenal de dissuasion dont on dispose. Cette doctrine est ancienne et reconnue, tant chez les Américains que chez les Chinois et les Japonais, mais elle était jusqu'à récemment proche de l'anathème chez les Européens.
Merci à vous, Quentin Dickinson. C'est une information qui vient de tomber. L'ancien président italien Carlo Azeglio Ciampi est mort à l'âge de 96 ans. Il avait dirigé donc l'Italie de 1999 à 2006. Alep attend toujours l'aide humanitaire pour ses 250 000 habitants. Mais les camions chargés de nourriture sont toujours bloqués aux abords de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Les Nations Unies espéraient profiter de la trêve pour faire entrer ces 40 camions dans les quartiers est de la ville, toujours assiégés par le régime. Mais pour l'instant, aucun mouvement n'a été enregistré. À Beyrouth, la correspondance d'Omar Ouaman.
50 kilomètres seulement séparent la frontière turque des quartiers rebelles d'Alep. 50 kilomètres de territoire qui illustrent seuls le défi auquel est confrontée la Syrie. Ce territoire du nord du pays est une addition de zones tantôt contrôlées par les rebelles, tantôt par les forces gouvernementales, tantôt par les Kurdes. Pour parvenir à acheminer cette aide humanitaire aux quartiers assiégés par les forces du régime de Bachar el-Assad, les convois devront emprunter une route qui est aujourd'hui au cœur des négociations, la route du Castello, qui est sous le contrôle de Damas depuis 2 semaines après de violents combats. Le défi majeur est de démilitariser cet axe stratégique pour permettre le passage des camions qui attendent aux abords de la frontière. Démilitariser implique retrait des forces en présence. Mais la méfiance est grande entre les deux camps. Les rebelles accusent le régime de vouloir profiter de la situation pour renforcer le siège, alors que les forces gouvernementales ne veulent pas se retirer sans être remplacées par leurs alliés russes, de peur de perdre le contrôle de cette route du Castello qui mène au quartier rebelle où survivent près de 250 000 habitants.
Un Palestinien a été abattu aujourd'hui à Jérusalem-Est, partie occupée donc de la ville. Il a été tué par une policière israélienne qui l'avait tenté de poignarder. Le Palestinien, âgé d'une 20aine d'années et aussi détenteur d'un passeport jordanien, a cherché donc à poignarder la policière près de la porte de Damas. C'est l'un des accès les plus sensibles à la vieille ville. La policière a riposté et l'a abattu. Plus d'un million de personnes ont fui le Soudan du Sud. C'est le bilan établi par le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le Soudan du Sud rejoint ainsi la Syrie, l'Afghanistan et la Somalie, 3 pays dont les réfugiés ont dépassé le seuil du million. Ce pays est ravagé par une guerre civile depuis décembre 2013 et une nouvelle flambée de violence a éclaté en juillet. Nous allons maintenant en Suède où la Cour d'appel vient de se prononcer sur la demande de levée du mandat d'arrêt émis à l'encontre de Julian Assange. Le 5 février, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait demandé la remise en liberté immédiate du fondateur de Wikileaks, exigeant même le versement d'une compensation financière pour les 4 années passées à l'ambassade de l'Équateur. La Suède a donc décidé de ne pas en tenir compte, Anne-Françoise Hiver.
C'est la 8e fois qu'un tribunal suédois se prononce sur la levée de ce mandat d'arrêt européen émis par la Suède en 2012 et c'est la 8e fois qu'il est confirmé. Sauf surprise, les avocats du fondateur de Wikileaks devraient maintenant faire appel devant la Cour suprême du Royaume. En attendant, Julian Assange restera à l'ambassade d'Équateur à Londres où il vient de passer ses 4 dernières années. Mais avec un rendez-vous le 17 octobre, date à laquelle il devrait enfin être soumis à un interrogatoire. Ce sont les autorités à Quito qui l'ont annoncé. L'Australien sera questionné par un procureur équatorien en présence de 2 représentants du parquet suédois. Petit rappel des faits, le fondateur de Wikileaks est sous le coup d'une enquête pour viol présumé remontant à 2010. Il était en Suède pour une série de conférences. 2 plaintes ont été déposées contre lui. La première pour agression sexuelle, prescrite en août 2015. La seconde pour viol, qui pourrait lui valoir jusqu'à 4 ans de prison. Le fondateur de Wikileaks dénonce depuis le début une manipulation visant à le faire venir en Suède pour ensuite l'extrader aux États-Unis, où il encourt la peine de mort. Les Suédois, eux, ne croient pas à la théorie de la conspiration. Ils veulent qu'Assange réponde des accusations, sujets très sérieuses portées contre lui, même si les juristes estiment qu'il y a peu de risques qu'il soit condamné, puisque c'est sa parole contre celle de ses accusatrices.
14 milliards de dollars, soit 12 milliards 500 000 euros, une amende record que le ministère de la Justice américain réclame à la Deutsche Bank pour mettre fin à un litige immobilier. La banque allemande est accusée d'avoir vendu des titres adossés à des crédits immobiliers de mauvaise qualité avant la crise financière dite des subprimes de 2008. Si Deutsche Bank s'acquittait d'une telle somme, il s'agirait de la pénalité financière la plus importante jamais infligée à une banque étrangère aux États-Unis, loin devant l'amende de près de 9 milliards payée par l'établissement français BNP Paribas, c'était il y a 2 ans. Mais Maïwenn Bordron, l'établissement bancaire a d'ores et déjà annoncé qu'il ne paierait pas un tel montant.
Les négociations ne font que commencer entre le gouvernement américain et Deutsche Bank. La banque allemande s'attendait à verser un montant bien plus faible aux États-Unis, selon les sources entre 2 et 5 milliards de dollars. Elle va donc essayer de réduire au moins de moitié l'amende qui lui a été infligée par le département de la justice américain. Certaines de ses rivales l'ont déjà fait. Il y a 5 mois, la banque d'affaires américaine Goldman Sachs s'est finalement acquittée d'une pénalité de 5 milliards de dollars à la place des 15 milliards initialement requis à son encontre. Un chemin à suivre donc pour Deutsche Bank, car depuis 2012, sa facture juridique dépasse les 12 milliards de dollars. En 2013, par exemple, elle avait déjà dû payer près de 2 milliards de dollars pour mettre fin à un autre litige financier aux États-Unis. Elle était accusée d'avoir escroqué Fannie Mae et Freddie Mac, deux spécialistes du refinancement de prêts immobiliers avant la crise financière de 2008. Mais la banque allemande est encore empêtrée dans plusieurs dossiers juridiques. Le président du directoire a déclaré qu'il voulait régler au plus tôt quatre des principaux litiges qui affectent la banque, comme la manipulation des taux de change ou encore des soupçons de blanchiment d'argent. Plus de 5 milliards d'euros ont été mis de côté par Deutsche Bank pour régler tous ces litiges en cours, une somme qui devrait être augmentée d'ici la fin de l'année.
Merci Maïwenn Bordron. Midi 40 sur France Culture, les réactions se multiplient en Corse après les condamnations dans l'affaire Cisco. Cette rixe, au départ pour un motif futile, qui s'est transformée en hystérie collective. C'est cette nuit que les condamnations sont tombées. Les 5 prévenus écopent de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans ferme. Il aura fallu 12 heures au tribunal correctionnel pour trancher. Et pour Ange-Pierre Vivoni, le maire de Cisco, maintenant que le verdict est rendu, il est nécessaire de tourner la page. C'est ce qu'il a dit ce matin chez nos confrères de France Info.
On doit tourner cette page. Enfin, on doit tourner cette page. J'avais dit que toute la lumière devait être faite sur cette affaire. Et aujourd'hui, lumière est faite. C'était une rixe, point à la ligne. C'était pas un combat, je dirais, de Corse entre maghrébins. C'était pas des racistes, pas du tout. C'était une photo qui avait tout déclenché. Le burkini, on n'a pas parlé de burkini, on n'a pas parlé de racisme. Et ça, je pense que les débats ont été dignes, vraiment, de par tout le monde. Du couvre-feu, je ne pouvais pas en mettre parce que, vous savez, quand vous avez beaucoup de gens qui sont, très, très, très remontés, il faut quand même calmer les esprits. Et je pense que je ne pouvais plus avoir, et nous sommes le 13 août, il n'y a pas seulement que les villageois, comme tout le monde le dit. Et Cisco fait 1200 habitants en hiver et à peu près 4000 l'été. Et même les gens, les communes limitrophes. Et tout ça a été monté en épingle. Et je ne savais plus, au moment donné, comment faire. Je pense que la page est tournée et la page doit être tournée. Bon, la justice a rendu le verdict et j'ai dit que j'accepterai ce verdict-là et j'accepte ce verdict-là et je vais tâcher de l'expliquer à tout le monde. Je pense pas que les avocats fassent appel, mais maintenant il faut oublier cette pénible affaire pour tout le monde.
Ange-Pierre Vivoni, le maire de Cisco qui était l'invité ce matin de nos confrères de France Info. Nicolas Sarkozy, lui, était invité hier soir sur France 2, invité de la première émission politique. Le candidat à la primaire de la droite et du centre a été suivi par 2 700 000 téléspectateurs, un chiffre honorable pour ce type de programme. Et pendant plus de 2 heures, l'ancien chef de l'État s'est nettement démarqué de son principal concurrent Alain Juppé en ciblant l'électorat du Front National. Nicolas Sarkozy a multiplié les clins d'œil vers l'électorat d'extrême droite, Stéphane Robert.
C'était particulièrement flagrant hier soir. Déjà, quand Nicolas Sarkozy s'adresse au chef d'entreprise encarté au Front National, qui l'interpelle sur le fonctionnement économique de l'Union européenne et qui l'accuse de duplicité, il lui répond « N'employez pas des mots désagréables alors que vous ne l'êtes pas ». On voit bien qu'il n'a pas envie de se fâcher, qu'il le ménage, et il lui explique que Marine Le Pen se trompe, qu'elle n'a pas d'alliés en Europe pour modifier les règles de fonctionnement de l'Union, sous-entendu que lui, Sarkozy, les a. On voit à ce moment-là que ça n'est pas vraiment à son interlocuteur qu'il s'adresse, mais à l'ensemble des électeurs frontistes. Ensuite, face à l'imam d'Ivry-sur-Seine, Mohamed Bajrafil, un imam très modéré, progressiste même, qui n'impose pas à ses propres filles de porter le voile, alors là, il ne le ménage pas. Bajrafil l'interpelle sur le sentiment de nombreux musulmans qui se sentent stigmatisés. Sarkozy lui répond qu'ils doivent se sentir interpellés par le fait que l'islam radical a fait 238 morts avec les attentats en France au cours des 18 derniers mois. Il ne répond pas à la question qui lui est posée, il agite la menace islamiste comme on agiterait une cloche pour mieux faire résonner la crainte des terroristes. Enfin, sur l'éducation face à une syndicaliste enseignante, Marlène Le Seffel, qui lui rappelle que lorsqu'il était au pouvoir, il a supprimé une grande partie du réseau d'éducateurs spécialisés qui permettait de prendre en charge les élèves perturbateurs. Il lui répond « Vous savez ce qu'on va faire ? Les 100 000 élèves décrocheurs en France, on va leur faire faire le service militaire obligatoire. » Là encore, il ne répond pas à l'objection qui lui est faite. Il n'explique ni comment, ni avec quel argent. Il ne parle pas à son interlocuteur. Il s'adresse à un électorat qui attend un discours de fermeté, à droite, voire très à droite, et susceptible d'aller voter à la primaire. Nicolas Sarkozy est en campagne et encore une fois, il braconne sur les terres du Front National.
Invité de ce journal, Nicolas Lebourg, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un essai paru aux éditions Les Échappées, Lettres aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. La stratégie de Nicolas Sarkozy, on vient de l'entendre, c'est de tenter de siphonner l'électorat d'extrême droite. Est-ce que ça peut marcher comme en 2007 ou alors cette fois les électeurs vont, comme on dit, préférer l'original à la copie?
Alors, il y a plusieurs aspects. L'électeur préfère toujours l'original à la copie. Quand on regarde depuis les années 1960, dans tous les pays de l'Union européenne, quand un parti essaye de plagier les thèmes des partis nationaux populistes, c'est ce parti d'extrême droite-là qui en bénéficie, ça légitime le transfert des votes. En 2007, Nicolas Sarkozy réussit grâce au thème de la France qui se lève tôt, grâce au thème de la valeur travail. Il prend les professions libérales, les artisans, les chômeurs qui avaient voté pour Jean-Marie Le Pen en 2002. Il les rend à sa fille en 2012 parce que sur le thème identitaire, effectivement, l'électeur préfère le genre à la copie. Là, on est sur une primaire. Donc, il s'agit de savoir qui va aller voter. Il s'agit de mobiliser son camp. Il ne vous aura pas échappé sans doute qu'à la primaire socialiste...
Ouverte quand même.
Oui, mais que donc, on mobilise un camp à la primaire socialiste, c'était assez à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la primaire à droite, elle va bien évidemment être assez à droite et en bonne logique, après, on tente un recentrage. Après, si Nicolas Sarkozy va très loin là-dedans, évidemment, le recentrage sera plus dur.
Christine Monclat du service politique.
Bonjour Nicolas Lebourg. Donc, vous êtes historien. Ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez sur le Front National et après avoir écrit beaucoup de livres sur l'histoire de ce parti, sur sa composition, etc. Vous faites aujourd'hui donc cette lettre aux Français qui s'apprêteraient à voter pour le Front National. Pourquoi le vecteur de la lettre? Est-ce que c'est une manière d'exprimer une sorte d'urgence? Est-ce qu'il y a pour vous un risque ou une chance que Marine Le Pen puisse gagner la présidentielle de 2017?
Il y a une urgence de débattre, je crois. On parle souvent de droitisation. On a un débat qui s'est tellement droitisé que quelqu'un comme Éric Zemmour, qui s'est entièrement construit sur la transgression, aujourd'hui on est à dénoncer le fait que Marine Le Pen serait de gauche parce que sinon il a plus d'espace. Moi je crois l'exact contraire, si vous voulez, j'ai une espèce d'anti-Zemmour. Je crois qu'au contraire, il faut reconstruire du dialogue et des espaces de dialogue dans ce pays. Y compris dire aux gens qui s'opposent au Front National qu'il faut discuter avec les électeurs du Front National et dire aux électeurs du FN qu'il faut arrêter de se mettre dans le bon rôle les autres ne sont pas tous d'ignobles collaborateurs de l'invasion, mais qu'il y a une nécessité de dialogue. Donc c'est surtout ça l'idée. Voilà.
Donc la lettre, bon, pour parler donc plus directement, c'est un livre très pédagogique, pas du tout moralisateur. Vous pouvez nous en expliquer un peu la genèse, peut-être?
C'est une idée de Rice, c'est pas une idée de moi, au départ. Rice, donc c'est le directeur de Charlie Hebdo. Et c'était cette idée-là, effectivement, qu'il fallait aller s'exprimer directement auprès des gens, directement auprès des électeurs du Front National, leur faire des lettres. Donc je commence par un enseignant d'histoire-géographie au collège Honoré de Balzac à Albi, où je fus moi-même dans ma verte jeunesse. Et on finit avec un lepéniste un peu dubitatif, quelqu'un qui a soutenu Jean-Marie Le Pen tout au long de sa vie, qui se demande si ce recentrage est bien raisonnable et qui se rassure en relisant le programme du Front National et qui retrouve bien évidemment ce qui motive au premier chef tous les électeurs du Front National, toutes les enquêtes le démontrent, la question de l'immigration, un programme tout à fait clair sur ces questions-là et puis aussi une vision du monde parce que la droite c'est un style, la gauche c'est un programme, l'extrême droite c'est avant tout une vision du monde, l'idée que la société doit être comme un tout organique. Et là il la retrouve parce que ça y est encore.
Alors d'après vos observations, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle de 2017, franchir ce fameux plafond de verre?
Alors je crois qu'il n'y a pas de plafond de verre. En politique, le but, François Duprat, numéro 2 des années 70, du FN dans les années 70 jusqu'à son assassinat en 78, disait que le but de la politique c'est de prendre le maximum de place, de surface, et que le reste n'était que la littérature. Il avait raison. Il n'y a pas de plafond de verre. Par contre, Marine Le Pen aujourd'hui a un problème sérieux. Les cantonales, les départementales et les régionales ont démontré que l'électorat de droite ne fait aucune confiance dans le programme économique du Front National et a des doutes sur sa capacité à gouverner. Qu'il participe à des majorités, ça aujourd'hui c'est une chose à peu près acquise pour une partie de l'électorat. Qu'il puisse avoir le leadership, c'est autre chose.
Qu'est-ce qui lui manque alors?
Il lui manque effectivement, Marine Le Pen continue à souffrir d'une image extrêmement sectaire et extrémiste. Alors on voit qu'elle essaie justement de la présidentialiser. Le Front National aujourd'hui apparaît crédible sur un certain nombre d'items dans les enquêtes d'opinion, mais l'idée qu'il puisse diriger le pays lui-même est une chose délicate. Donc la campagne d'entre-deux-tours effectivement devrait lui être promise, mais elle risque d'être extrêmement difficile pour elle, d'autant plus qu'il y a des questions comme la diplomatie, comme l'économie, donc, qui sont particulièrement ses talons d'Achille et qui sont exactement les thèmes d'un débat d'entre-deux-tours.
Donc il manque une stratégie de second tour?
Bah pour l'instant, il y en a pas tellement. C'est-à-dire pour l'instant, la stratégie de Marine Le Pen, c'est, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu les petits chats et l'Élysée. Donc c'est cette idée, effectivement, qu'on va adoucir l'image. Certes, ça répond à la question du sectarisme.
Et ça répond pour le premier tour.
Ça répond, effectivement, à une toute petite progression, si on veut, entre le premier et le second tour. Mais on ne sent pas un appareil. On verra ce que donnera l'UDT. Le programme de l'université d'été est quand même très orienté avec des thèmes sur la fonction publique, sur l'euro,
l'école.
Des choses où le Front National, aujourd'hui, est bien positionné, où il a montré qu'il avait un électorat, mais il y a peu de thèmes d'ouverture, il y a peu de thèmes pour répondre à des questions peut-être plus libérales. Le Front National, aujourd'hui, il a des impacts électoraux très forts dans les zones qui ne sont pas liées à l'économie globalisée. Au régional, il y a 40% des artisans qui ont voté FN, il y a 50% des non-diplômés qui ont voté FN. Là, effectivement, il y a un public assez compact pour lui. Maintenant, s'il veut arriver à un résultat très honorable au second tour, il lui manque une stratégie.
Et alors, quelles sont les terres de conquête, les terres à conquérir ?
Alors, manifestement, très clairement, au vu des derniers scrutins, le problème du Front National, ça reste la façade atlantique. Et là-dessus, dans le débat entre Marion Maréchal Le Pen et Florian Philippot, il y a parfois, on voit mal les choses. Marion Maréchal Le Pen dit qu'effectivement, la cible, c'est la façade atlantique. C'est là où il faut aller chercher des voix. Le bassin méditerranéen, c'est fait. Le nord-est, c'est fait. Là, il y a une zone à prospecter. Et à l'échelle nationale, comme pour un scrutin présidentiel, si le Front National est un parti rationnel, c'est là qu'il va mettre l'accent. Sur cette zone-là.
Peut-être une dernière question sur le vote musulman, qui semble être une nouvelle cible du Front National, avec un discours non communautariste. On ne reconnaît qu'une communauté, celle de la nation. Et si vous êtes patriote, alors quelle que soit votre origine, votre religion, vous faites partie de la famille patriote française. La lettre que vous écrivez à la caissière de Perpignan, qui justement vit dans un quartier avec une forte proportion de population d'origine étrangère, elle est principalement sur ce thème-là.
Alors, c'est une question délicate pour le Front National. Quand Alain Soral est allé au FN, c'était déjà sur cette idée qu'il fallait aller chercher les électeurs musulmans. Ce qu'on constate au niveau des cartes et de l'analyse du vote, c'est qu'en fait, il y a une surmobilisation de l'électorat d'origine arabo-musulmane contre le Front National. Et de l'autre côté, c'est la première motivation. Le jeu du FN, s'il veut arriver à progresser, c'est à la fois à dire à cette population-là... Sur la question de la sécurité, nous sommes crédibles, nous ne sommes pas contre vous. Et par contre, vous êtes en premier front des problèmes de sécurité. Mais en même temps, par exemple, chez les CSP+, il y a une grosse motivation sur les questions islamophobes, sur la peur de l'islam qui vient légitimer le vote. Donc il leur faut réussir ce grand écart dialectique qui n'est pas facile.
Merci à vous, Nicolas Lebourg, d'avoir accepté notre invitation dans le journal de France Culture. L'adolescent de 15 ans, arrêté mercredi à Paris parce qu'il était soupçonné de vouloir mener une attaque djihadiste, cet adolescent a donc été déféré ce matin pour être présenté à un juge antiterroriste. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et a requis son placement en détention provisoire. C'est une découverte importante dans le domaine de la linguistique. Selon une étude internationale publiée cette semaine, la grande majorité des langues du monde utilisent des sons, des sonorités similaires, en tout cas pour désigner les objets et les mots du quotidien. Bonjour Lucas Waldener.
Bonjour Antoine.
Cette découverte remettrait ainsi en question le principe fondamental de la linguistique, comme quoi le lien entre le son et la signification du mot est totalement arbitraire.
Alors derrière cette étude, il y a une équipe d'informaticiens et de linguistes venus du monde entier. Ils ont analysé 100 mots de base dans le vocabulaire de 4000 langues, sachant qu'il en existe plus de 6000 sur cette planète. Ils ont retenu les mots les plus utilisés, les parties du corps, les liens de parenté et les objets du quotidien. Conclusion, la plupart présentent effectivement des sonorités communes. Par exemple, le mot « nez » comprend le plus souvent les sons « nez » ou « ou ». Même chose pour le sable avec le « s » et le rouge avec le « r ». Il y aurait donc une corrélation très forte entre le son des mots et leur signification. Mais sur ce point, le linguiste français Louis-Jean Calvé reste plutôt sceptique.
Il y a actuellement aux États-Unis une tendance idéologique à vouloir dire que toutes les langues remontent à une même langue. Donc certains voudraient dire que si les mots se ressemblent, c'est parce que tout ça remonte soit à une même fonction, une même possibilité de langue dans le cerveau humain, soit à une langue des origines.
Et cette théorie d'une langue originelle est aujourd'hui largement rejetée par Claude Agège, linguiste au Collège de France.
C'est une absurdité qui n'a jamais été démontrée. Cela a été soumis à une critique serrée. Il est complètement impossible de prouver la moindre origine unique de toutes les langues.
Et pour preuve, Claude Agège reprend l'argument du nez, celui cité en exemple dans cette étude.
Nez se dit boum en turc. Il se dit af en hébreu. Je dis mouk en thaï. Je dis pi en chinois. En chinois mandarin. Il se dit munkar en arabe. En d'autres termes, l'extrême diversité de ces mots indique que cette idée d'une homologie phonétique des mots pour dire le nez est complètement absurde et n'est pas appuyée sur expérience.
Alors les sons d'un mot sont-ils vraiment le fruit du hasard? L'arbitraire doit-il rester le concept fondamental de la linguistique? Depuis plus d'un siècle, la question divise la discipline et la réponse se fait toujours attendre.
Merci Lucas Valdener. La fin de l'été, c'est maintenant. Il va pleuvoir sur une bonne partie du pays, à l'exception notable, pour une fois, de la Normandie et de la Bretagne. Attention aux orages dans l'Est. Côté température, c'est la chute libre. 15 degrés seulement à Rennes, 18 à Paris, un petit 23 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Yacine Bouzard. Prochain journal à 18h. Il vous sera présenté par Anne Fauquemberg.